transition, agir ensemble vers une pédagogie éco-responsable, citoyenne et solidaire.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur ce nouveau podcast réalisé par le réseau Prof en Transition dans le cadre de notre initiative L'Océan en Partage. Source première de vie, l'océan est un espace sauvage, libre, mythique et mystérieux, appelant au songe et à la rêverie. Ses flots tissent des liens entre les terres et les peuples. La connaissance et la sauvegarde de l'océan sont centraux afin de favoriser un horizon désirable pour les générations à venir. Apprenons l'océan dans nos classes par le prisme de ses reflets, géographiques, scientifiques, historique, artistique ou encore littéraire, pour que vive sereinement et durablement cet océan en partage. Aujourd'hui, retrouvons Joe Le Guen, marin breton et expérimenté de 73 ans et demi. 500 ans après Magellan, Joe part dans le sillage du navigateur portugais pour un tour du monde de 2 ans à la voile et en solitaire. L'occasion pour Joe de nous raconter la grande histoire avec ce tournant du 16e siècle, où la mondialisation et les inégalités nord-sud émergent, mais aussi la petite histoire, la sienne, avec au cœur la mer, le voyage, les joies et les peines, les espoirs et les doutes. Naviguons avec Joe pour transmettre à nos élèves le goût des espaces, la passion des horizons et la curiosité d'apprendre. Bienvenue à bord du voilier Juan Elcano et du projet Sillage, à suivre ici et sur le site sillage.org. Salut Joe.
Salut Fred, ça va?
Et toi, ça fait plaisir de t'entendre. Comment vas-tu?
Ah bah oui. Bah moi je vais bien, je suis à Portimao là, donc le coup de vent est passé hier, c'était super violent hier soir. Là. C'était dans la marina, les bateaux, ils valdinguaient, c'était dingue.
Et oui.
Et puis ça s'est calmé aujourd'hui, quoi, c'est encore des bandes sud là, mais bon, ça se calme doucement et je vais pouvoir partir demain après-midi en fait. Donc ça c'est quand même bien, ça me fait plaisir, je suis content, voilà. J'en ai marre d'être dans cette marina qui est sympathique, et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce qu'à 50 nœuds dehors, ça aurait pas été génial. Donc oui. On dit merci à la marina, mais d'un autre côté, pouvoir repartir, c'est quand même important.
Portimao, oui, donc qui est sur la côte sud du Portugal.
Tout à fait, oui, c'est un petit peu à une trentaine de milles, donc 50 km du Cap Saint-Vincent, qui est la pointe sud du Portugal. Ouais.
D'accord. Donc rappelons que tu es parti de l'Anildut. Il y a combien de temps maintenant que tu es parti?
Bah, écoute, je ne sais même plus si je sais en fait. Le 9, je suis parti le 9 octobre.
D'accord.
Et j'ai dû arriver ici le 17 au matin.
Donc une grosse...
Ah, normalement, j'ai dû...
Ouais. Hein? Une grosse semaine en mer déjà, t'as passé?
Oui, tout à fait, oui. C'était bien, j'étais bien, et puis... Le mec avec qui je bosse, là, en météo, me dit, ben écoute, tu peux plus continuer sur Madère ni les Canaries, tu vas te manger 40-50 nœuds. Et comme on n'est pas là pour faire le cake et puis pour durer un petit peu, du coup, on s'est replié ici à Portimao, quoi, tu vois, le temps que ça passe, parce que de toute façon, il ne s'agit pas de compromettre tout un voyage pour faire, alors qu'on peut éviter.
Et oui.
Être en mer, ça suppose prendre des coups de vent aussi, bien sûr, mais enfin bon. Quand il y a un gros coup de vent qui arrive et quand on a une possibilité de l'éviter, faut pas donc être débile, quoi.
Mieux vaut tenir que courir, voilà. Tu as raison. Et alors, quelles ont été tes premières sensations là en mer cette première semaine?
J'ai adoré.
Ouais.
J'ai adoré. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais pas fait de la voile en solitaire depuis peut-être 1975 ou 74, 73, imagine.
Ah, ben j'étais pas né. 10 ans après, je naissais.
Ah là, quelle génération perdue, vous êtes, c'est incroyable.
ne t'égare pas, cher Joe.
Tout ce que vous avez perdu.
Attends, je me rattraperai donc, après, si je peux.
Bien sûr. Nous eûmes du courage, 20 ans d'amour et d'amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je quittais le port, et oui. Donc si tu veux, moi j'ai adoré. En fait, depuis j'ai fait les traversées rarement solitaires, c'était bien, mais c'est du labeur. Mais là, j'ai adoré. Être en mer, j'ai adoré. En plus, j'ai un bateau qui est super sympa.
Ouais.
Et c'est pour les bateaux, on dit qu'il manque toujours un mètre. Eh ben, ça tombe bien. Je suis tombé sur le bateau, il manque pas un mètre.
Ah, t'es bien dedans, pour t'as la place pour tout.
Voilà, j'ai la place pour tout. Il est super sympa, il est très marin. Il est content, je suis content, nous sommes contents.
Et ça veut dire quoi, il est très marin?
Ben, c'est-à-dire qu'ils se comportent bien en mer. Si vous êtes des bateaux, c'est des trampanelles ou des camping-cars aménagés, tu vois, qui sont super, enfin, ouais, ils sont un peu limites en mer, où tu sais pas trop si ça passe ou si ça passe pas. Ce bateau-là, quand tu le vois, tu sais, j'ai pas eu de coup de vent, évidemment, avec lui encore important, mais on a eu quand même du vent un peu frais, quoi, 25 nœuds, 27 nœuds, tout ça. Le bateau,
il passe.
Il va tranquille. Bon. Il est jamais, il te met, tu le sens pas, tu vois, tu le sens pas à la limite, t'es content. Enfin, c'est un bateau qui te rassure, mais tu es content avec parce qu'il, ouais, il va bien, quoi, c'est tout.
Et justement, en parlant de te rassurer, tu avais des appréhensions avant de partir sur le golfe de Gascogne, hein, parce qu'il y avait du vent un peu violent qui soufflait, qui avait retardé ton départ. Parce que le golfe de Gascogne, tu peux nous expliquer pourquoi c'est un endroit si particulier?
Ben, le problème, c'est que quand tu es en Bretagne, si tu es pour aller en Espagne, il faut le traverser, le golfe, quoi. Donc, quelque part, tu vas en haute mer. Or, évidemment, quand les dépressions viennent de Terre-Neuve, traverser l'Atlantique, elle s'éclate comme des folles autour du golfe de Gascogne. En plus, il y a des remontées de fond qui fait que des fois, il y a des mers très difficiles, quoi.
Ouais.
Je me rappelle, Alain Colas, il avait fait le tour du monde en solitaire de Saint-Malo, Sydney, Sydney, Saint-Malo, sur un trimaran. Il avait dit que la plus grosse branlée qu'il avait prise, c'était le retour dans le golfe de Gascogne.
Comme quoi ?
Alors qu'il avait travaillé. Non, mais c'est vrai. Ça peut être super violent, le golfe de Gascogne.
Ouais.
Alors moi, je suis parti dans les conditions météo qui étaient bonnes, évidemment, enfin, qui étaient satisfaisantes, parce que j'ai quand même attendu au moins 3 semaines que ces messieurs dames du vent, des nuages et tout veuillent bien me laisser passer. Mais après, une fois que tu y es, c'était content d'en être sorti, parce que tu sais, si ça peut tourner vilain,
oui,
dans ce golfe là. Mais donc c'est quand même un endroit, il faut faire attention, où tu peux mettre les pieds sans problème, mais pas n'importe quand, quoi.
Oui, voilà. Tu as raison. Et après, tu as pu voir défiler les côtes portugaises. Et dans ta dernière newsletter, que je me ferai un plaisir bientôt de lire en podcast également, tu parles de tous les souvenirs de ces marins portugais là qui ont hanté à l'époque ces côtes portugaises. Tu peux nous en dire deux mots?
Ben, le problème, si tu veux, c'est que avant, je m'intéresse vraiment de près, je dirais, à l'histoire de Magellan, à Vasco de Gama et à toutes ces grandes navigations portugaises. Moi, quand je passais devant Portugal, je passais devant Portugal, quoi.
Ouais.
Maintenant, c'est foutu. Quand je passe quelque part, je dis, tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Magellan, Vasco de Gama, quand tu passes devant Lisbonne, évidemment, tous ces bateaux qui sont arrivés, qui sont partis. Au Cap Saint-Vincent, il y a Sagres, qui était un petit peu le repère de Henri le Navigateur, qui n'a jamais navigué de sa vie, quasiment, mais qui a beaucoup œuvré pour développer les bateaux, former les capitaines et tout et tout. Donc les Portugais, c'est un grand pays de marins. Ils dominaient le monde à l'époque, hein,
oui,
en termes maritimes. C'était eux qui avaient des informations. Et donc, pour repasser devant tous ces endroits et voir ces mecs-là, enfin, ne pas les voir, évidemment, mais imaginer qu'ils sont passés là, c'est que... Du coup, moi, maintenant, je suis complètement dans cette histoire et je ne peux plus voir le Portugal comme je voyais avant, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Mais c'est bien comme ça.
Et alors, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, rappelons, parce qu'on est donc à parler du départ de Magellan, rappelons que Magellan est portugais. Il est soldat pour la couronne du Portugal et marin pour le Portugal également. Et il va se fâcher, tomber en discorde avec le roi du Portugal et s'expatrier finalement en Espagne.
Ouais, en fait, si tu veux, c'est un peu comme tous les mecs qui voient, un mec est marin sur un bateau et qui voit un skipper faire des courses, il a envie d'être skipper. Et je pense que Magellan, il avait envie de faire aussi un truc. Et de sortir, en fait, de sa condition moyenne d'officier moyen, c'est ce qu'il était, un très bon officier, mais il était quand même dans la moyenne, quoi. Mais il est allé voir le roi pour lui proposer d'aller trouver la route des Indes, les îles aux épices, en faisant le tour de l'Amérique. Mais le problème, c'est que, en fin de compte, les Portugais, ils allaient déjà aux Indes en faisant le tour de l'Afrique.
Bien
Pourquoi
sûr.
Ils auraient été investir des sommes, prendre des risques sur une route incertaine, voire improbable, voire pas de route du tout? Alors, il n'y avait aucune raison que Manuel Ier finance cette expédition, quoi. C'est donc une erreur de Magellan de croire que quelque part il pouvait être entendu au Portugal. Par contre, comme les Espagnols, en fin de compte, il était fou furieux, enfin, et vert de rage, jaloux comme tout de voir les Portugais se remplir les poches avec cette route commerciale par l'Afrique qui leur était interdite aux Espagnols.
Oui.
Comme ils avaient déjà envoyé en 1516 une expédition, le mec s'était fait manger par les Indiens dans le Rio de la Plata, dans le demi-tour. Ils avaient donc échoué et Magellan se pointe et dit « J'ai des informations sur une route au sud de l'Amérique ». Ce qui n'était pas vrai, bien entendu. Il la connaissait pas. Il ne savait pas. Donc Magellan, il a monté un film avec un cosmographe Rui Falero, et ils se sont dit, on va aller les voir, leur proposer ça. Et comme les Espagnols, enfin, comme ils savent très bien, ça leur était imposé que les Portugais étaient quand même les meilleurs marins du monde et qu'ils avaient des informations que eux, Espagnols, n'avaient pas. Ils se sont dit, et si lui, le Portugais, et s'il savait vraiment, oui. Et s'il avait des infos. Et c'est comme ça qu'ils l'ont financé. Mais ils l'ont financé sur un mensonge. Il a dit, je connais un passage, il ne connaissait pas de passage. Et donc, quelque part, ça a dû être chaud, parce que quand ils lui ont filé tout le pognon pour armer 5 bateaux avec 240 mecs, le mec, il s'est dit, bon, vaudrait mieux que je trouve le passage, parce que sinon, ils vont me découper en rondelles, les mecs.
Et oui, parce que ce que tu dis, c'est il faut ramener nos auditeurs, surtout à aller consulter une carte pour qu'ils visualisent bien le traité de Tordesillas, hein, de 1494, où l'Espagne et le Portugal se partagent les eaux, le monde maritime. Donc, avec le Portugal qui a l'espace privilégié, on va dire, puisqu'il a l'Europe, le contour de l'Afrique et jusqu'aux Indes par l'Afrique, donc tu l'as très bien signalé, et l'Espagne qui se retrouve avec, l'Amérique du Sud, et donc le passage vers l'Asie par l'Amérique du Sud, finalement, pour naviguer en eau sécurisée espagnole.
Oui, mais de toute façon, les Espagnols se sont roués dans la farine tout seuls. Parce que le problème, qu'est-ce qui s'est passé avant 94, c'est qu'en 92, Christophe Colomb découvre ce qu'ils pensent être les Indes.
Oui.
Et donc, quelque part, ils pensent qu'ils ont gagné le jackpot avec Colomb. Et c'est pour ça qu'en 94, ils signent Tordesillas. Ils disent, de toute façon, on s'en fout, on a les Indes avec Colomb.
Oui.
Mais Colomb n'est jamais arrivé aux Indes de sa vie, ce qu'il a jamais compris, d'ailleurs, jusqu'à savoir que la fille est arrivée aux Indes. Et donc, et voilà. Ils ont signé ça comme ça, la fleur au fusil, et puis ils se sont fait avoir par eux-mêmes.
Alors, pas tant que ça. Bah oui, l'histoire le racontera autrement, parce que quand même, le pillage des empires Inca, Maya et Aztèques par les Espagnols.
Ça c'était après. On n'est pas en 1494, excuse-moi, mais on est en 1520, 1530. Donc on est 20 ou 30 ans après. Évidemment, l'Amérique, ils ont tué tout le monde. Et
ils se sont gavés après.
Oui, mais après, mais pas...
Enfin, l'expédition de Cortés au Mexique, elle n'est pas si postérieure au traité de Tordesillas. J'ai pas la date exacte.
Si, quand même, si. Ça doit être 1520 par la...
Oui, c'est quoi, allez, oui, on est 25 ans après. Bon, on n'est pas...
Oui, justement, non, c'est pour ça que, en fin de compte, si les Espagnols avaient pensé qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils arrivaient là où ils sont arrivés, c'est-à-dire en Amérique, je pense qu'ils n'auraient jamais signé Tordesillas. Ils ont signé Tordesillas parce qu'ils pensaient qu'avec Colomb, ils avaient gagné le jackpot. En fait, ils n'ont rien gagné du tout immédiatement, à court terme. Il a fallu attendre Pizarro, les Incas et Cortés au Mexique pour qu'ils défoncent tout et qu'ils
rapatrient l'or des palais Incas en Espagne.
Ouais. Tout à fait, mais là c'était quand même nettement après Tordesillas. Quoi.
Et si on finit sur cette carte avec Tordesillas, il y a quand même un flair incroyable de Magellan qui est appuyé par un cosmographe, tu l'as dit, pour penser que les Moluques, l'île aux épices, est bien du côté espagnol de la ligne du méridien, de l'antéméridien finalement de Tordesillas. Est-ce qui est le cas?
Oui, bien sûr, mais enfin bon, à l'époque, au niveau longitude, c'est-à-dire qu'au niveau écart est-ouest, oui. Comme il n'avait pas l'heure, c'était très compliqué à savoir, et ils ne savaient pas trop où étaient les Moluques, parce que, dans la séparation, les Portugais, là, par contre, ils ont roulé les Espagnols dans la farine en déplaçant la première séparation vers l'ouest, mais en fin de compte, savoir où était exactement l'antiméridien, c'est-à-dire que l'autre côté de la Terre, quelle terre ils coupaient, et les Moluques, les îles aux épices, de quel côté elles étaient,
oui.
Là, c'était vraiment la brasse coulée. Quoi. Donc, très grand flottement.
Et par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le méridien de... Le méridien côté Amérique laisse clairement montrer que le Brésil est côté portugais, ce qui explique le fait que les Brésiliens parleront portugais finalement.
Oui, d'accord, mais là, il y a une entourloupe, là, c'est clair. Parce que les Portugais ont officiellement découvert le Brésil en 1500. Mais là, ça semble très peu probable. Ouais. Parce que la question, c'est qu'au départ, ils ont défini une ligne et les Portugais ont dit « Oh non, on va la déplacer un peu à l'ouest. » Et comme par hasard, elle coupe le Brésil. À mon avis, ils l'ont découvert avant, ils n'ont rien dit. Et donc, les Espagnols, ne sachant pas qu'ils avaient découvert le Brésil, ont laissé accepter que les Portugais déplacent la ligne vers l'ouest. Et tout d'un coup, comme par hasard, Boum boum, ça y est, le Brésil des Portugais. Bon, là, à mon avis, les Portugais ont fait une belle entourloupe aux Espagnols.
Oui, tu as raison. Donc voilà, donc c'est vrai que pour comprendre le voyage de Magellan et cette époque, il faut vraiment comprendre le traité de Tordesillas. Il faut regarder cette carte qui est bien faite. J'en profite pour signaler à nos auditeurs que la revue L'Histoire de ce mois-ci, du mois d'octobre, présente une très jolie carte en double page sur ce tour du monde de Magellan. Et d'ailleurs, tu parlais du, je vais citer la revue, tu parlais du départ de Magellan. Donc effectivement, Magellan part avec un équipage qui est complètement cosmopolite, puisque finalement, sur les 240 hommes, il y a un peu plus de la moitié qui sont espagnols. Et ensuite, on trouve quand même une trentaine de Portugais, 26 Italiens, 19 Français, dont 5 Bretons, tu seras content mon ami, et un Normand, ça c'est pour moi, 4 Allemands, 2 Africains, 2 Irlandais, on a un Malais qui est là, donc c'est sûrement Enrique, l'esclave de Magellan. On en reparlera longuement dans le voyage. Donc un équipage très cosmopolite. Hein. Et dans la revue, il l'explique par le fait que c'est assez difficile de trouver des marins qui partent comme ça à l'inconnu pendant une durée très longue finalement.
Absolument, absolument, absolument. Et en fait, il y a un Français qui a fait le tour du monde, hein, qui était sur la Victoria à l'arrivée.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Un mec de Normandie, ça me fait la peine de le dire, parce que je préfère qu'il soit breton.
Ah.
C'est un mec de Normandie, il a fait le tour complet avec Elcano quoi, sur la Victoria.
Et ben tu vois, oui, sur les 19 Français, la revue L'Histoire dit qu'il y avait 5 Bretons et un Normand. Donc c'est bien ce Normand qui est, bah forcément, Joe, j'ai envie de te dire, hein, encore quelque chose que, voilà, que les Normands... bon, enfin, bah, tu le sais bien. Et les 5 bateaux Et les 5 bateaux au départ, donc on a la Trinidad qui est commandée par Magellan, on a la Victoria, à l'époque commandée par Mendoza au départ, le Santiago.
Et, ouais, le Santiago,
le San Antonio et la Concepcion. Les 5 nefs
qui
vont quitter. Alors, rappelle-nous, Joe, ces bateaux partent d'où et vont descendre déjà le Guadalquivir.
Oui, c'est ça, ils partent de Séville, ils s'arrêtent à Sanlúcar de Barrameda qui est à l'embouchure, et là-bas, ils restent 40 jours avant de repartir.
Et toi, alors justement, est-ce que toi, tu vas aller jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir à Sanlúcar de Barrameda?
Non, je ne vais pas y aller parce qu'à cause du Covid et puis de plein de choses, la météo, tout ça, je suis un peu en retard et que, ouais. En fait, il faut que je passe dans le sud là-bas pendant l'été. Donc, si j'ai mes affaires du tourisme ici dans le nord maintenant, bah, je vais prendre un an dans la tête et donc là, je ne pourrai pas. Donc, je vais directement, aussi directement que possible.
Oui, et là donc ton
sud. J'ai déjà fait une escale ici de 4 jours ici à Portimao qui n'était pas du tout prévue. Voilà.
Prochaine escale, donc, tu la prévois où?
Si je peux, à San Julián.
Ah, directement donc sud de l'Argentine, d'accord. Pas d'escale prévue dans les îles.
Je pensais partir directement et je m'arrête à Portimao déjà, donc j'en sais rien. Enfin, oui. Après, ça dépend ce qui se passe en mer, quoi, on verra bien. Mais si je peux ne pas m'arrêter, je ne m'arrête pas.
Et oui, d'accord. Donc, on aura de tes nouvelles quand tu seras en mer. Une dernière petite chose que je voudrais aborder avec toi, Joe, que je trouve intéressante. Tu as un parallèle entre toi et Magellan, en toute simplicité, évidemment, mais tu as dans ton bateau une photo des marins de Molène, des marins qui étaient au début du XXe siècle sur les bateaux de secours de ton île natale, et donc tu fais le lien fort entre tes origines et ce que tu es. Et faisons le parallèle avec Magellan qui finalement perd complètement ses origines portugaises pour tomber à la solde des Espagnols, hein, qui sont quand même les ennemis jurés à l'époque des Portugais. Comment tu vois les choses, toi, de ce point de vue-là, entre les origines et la façon d'appréhender les défis devant toi?
Ben, moi, je pense qu'on n'appréhende rien si on a. Comme il y a la phrase, si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens, quoi.
Oui.
Et ça, c'est clair aussi. Et même Magellan, lui, il a jamais oublié, mine de rien, qu'il était portugais. Et puis, les Espagnols non plus, qui étaient avec lui, n'ont pas oublié qu'il était portugais. Personne n'a oublié qu'il était portugais, lui non plus.
Oui.
Ça, c'est un peu crispé. Donc, tu peux être à la solde de qui tu veux, mais tu restes quand même quelque part qui tu es, quoi, il me semble.
Oui, et toi, ce qui est rigolo, on en avait parlé il y a pas mal de temps. Donc toi, tu es né sur l'île de Molène et ton père était marin et il ne voulait pas que tu fasses que tu fréquentes le milieu de la mer et il a voulu t'exiler, si on peut employer ce mot. Tu peux nous en parler un peu de ça?
Non, non, enfin, mon père, comme son père, comme le père de son père, tout ça, était pêcheur. Un pêcheur, c'est quoi? C'est un mec, il a de l'argent quand il ramasse du crabe, quand il, là-bas, il pêchait le crabe. Donc, quand il fait pas beau, quand il fait machin, tout ça, il est évident que les mecs n'ont pas de pognon. Bon, il y a une espèce d'insécurité matérielle. Et puis, toutes ces générations-là, ils n'avaient qu'une envie, c'était que leurs enfants soient, avec un costard dans un bureau, quoi. C'était, pour qu'ils n'aient pas à souffrir de cette insécurité matérielle, justement. Donc évidemment, c'est pour ça que j'ai commencé ma carrière au Crédit Lyonnais, voilà.
Et oui, personne n'est parfait, Joe. Et le scandale du Crédit Lyonnais...
À la Générale ou bien à la BNP éventuellement.
Ça peut être encore pire. Mais le scandale du Crédit Lyonnais, c'était pas toi quand même. Rassurons les gens, t'étais pas dedans.
Non, je suis parti avant. Quand j'ai vu le soupe que c'était, je me suis dit, voilà, ça va mal finir cette histoire, donc je suis parti.
T'as bien fait, tu vois. Et il y en a qui sont encore trempés là-dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais et oui, donc finalement, la mère t'a rappelé comme quoi nos origines sont quand même assez prégnantes. C'est important tout ça parce que ça cristallise actuellement sur plein de débats dans la société sur les origines de qui ou d'un tel ou d'un tel, mais nos origines font partie intégrante de nous.
Ben oui, on peut pas le nier, ça c'est clair, net et précis. T'as une culture, bon, c'est pas pour ça qu'il faut être branché que sur la sienne et ne pas savoir qu'il y en a d'autres, hein, c'est
oui,
sûr.
Bien sûr.
Mais malgré tout, tu es quelque part, quoi. Comme dirait le forestier, je crois, être né quelque part, etc. Tu es né quelque part toujours.
Et oui, Joe, bah écoute, j'entends que ça sonne derrière toi, ça doit être la soupe qui est prête. On va
ouais,
te souhaiter. On va te souhaiter une bonne navigation donc à travers l'Atlantique. Que donc tu vas traverser.
Okay.
Les courants sont favorables pour la traversée?
Voilà, c'est bien pour le moment. Là. C'est bien pour le moment, ça se présente plutôt bien. Mais...
Bon, bah super. Bah écoute, Joe, un grand merci à toi pour ta disponibilité. Et puis, bah, à très bientôt.
Ok, salut Fred.
Salut Joe. Bye bye.
Bye bye.
Ce podcast vous a plu ? Vous souhaitez suivre la belle aventure de Joe, retrouver ses textes et le positionnement de son bateau, lui poser des questions ? Cap sur le site sillage.org. Et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la newsletter du capitaine. C'était Frédéric Essa pour le réseau Prof en Transition. Je vous invite à venir échanger avec les 25 000 profs en transition sur notre groupe Facebook. Prof en Transition est aussi sur Instagram et Twitter. Enfin, pour retrouver nos ressources, notre site profentransition.com. À très vite, pour que vive auprès de nos futurs éco-citoyens, au sein de ces micro-sociétés que nous appelons écoles, une transition écologique et sociale, porteuse d'espoir partagé et de sens du bien commun.